Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Notre dernière lecture du livre « Les diaconesses de Reuilly » de Gérite Messier s'est terminée par un poème parlant d'obéissance. C'est par ce même poème qui caractérise bien la règle évoquée dans ce dernier chapitre lu que je commencerai la lecture de ce jour. Consentir. Aimer dire oui. Demeurer humble. Porter le fardeau d'autrui, recevoir les charges, petites ou grandes, d'un cœur égal, aller sans retard vers l'œuvre commune, supporter le poids du jour, ne pas murmurer, n'avoir qu'une parole, regarder au Christ serviteur, prendre sa suite uniquement par amour. Nous sommes là dans la découverte d'une des plus anciennes communautés née sur le sol protestant, la communauté des diaconesses de Reuilly. Poursuivons donc notre lecture. Ici, il n'est plus question d'une autorité imposée, de prescriptions contraignantes, d'ordre. Tout est contenu dans ce témoignage d'une vocation librement acceptée, d'une transparence, d'une exhortation sans cesse réitérée, par les infinitifs multiples de l'obéissance. Il va de soi que l'obéissance fonctionne aussi concrètement dans la communauté. On prend les décisions ensemble. En dernière analyse, la prieure les sanctionne par une acceptation ou un refus. Mais ceci n'est que l'aboutissement d'un processus. L'obéissance comme telle est vécue dans l'attention, l'accueil et le respect de la vocation. Une composante particulière de cette obéissance, c'est le conseil. Dans une terminologie monastique classique, cela représente le chapitre général, le rassemblement de la quasi-totalité des sœurs de tous âges et des divers lieux où elles vivent et travaillent, en France et à l'étranger. Cette grande rencontre a lieu deux fois par an. La réunion du mois d'octobre a un caractère de recueillement et de prière. Il s'agit d'une retraite de 4 jours, clôturée par une fête d'église lorsqu'il y a une consécration. Le conseil du mois d'avril a un caractère différent et plus diversifié. C'est à la fois une grande séance de travail et un très vaste tour d'horizon. Le premier conseil s'est tenu en 1975. Ce fut une des premières initiatives de la nouvelle prieure, sœur Myriam. Quelques années plus tard, la communauté éprouva le besoin d'un enseignement plus approfondi sur le sens des 3 engagements. L'obéissance, le célibat, et la communauté des biens furent donc mises à l'ordre du jour. Depuis lors, l'étude d'un thème propre à la vie de la communauté fait généralement partie du conseil d'avril. Ces journées donnent en fait à chacune la possibilité d'approfondir ses choix et son engagement, aussi bien par rapport à des problèmes concrets qu'à des questions de vie spirituelle. L'adhésion absolue de chacune n'est pas essentiel lorsqu'il s'agit de problèmes pratiques, à condition de faire l'effort de marcher ensemble et dans la même direction. C'est ainsi que se forme une loyauté intérieure qui illustre admirablement ce qu'est l'obéissance en action. Le besoin d'avoir une règle se fit sentir à mesure que la réflexion s'intensifiait. Déjà du temps de sœur Viviane, on avait commencé à évoquer cette question sous la forme d'études de règles existantes. On avait même esquissé un projet très modeste. Le travail s'était révélé d'une grande valeur sur le plan de la réflexion, mais rien ne s'était pour autant imposé. Après avoir souvent et longtemps présenté à Dieu cette question, le conseil chargea sœur Myriam de se mettre à l'écoute de l'Esprit-Saint pour recevoir et écrire une règle. Elle accepta en toute obéissance et se retira dans un ermitage. À la surprise de ses sœurs, elle put leur présenter une première version à l'automne 1983, qu'elle révisa après avoir reçu leurs remarques. Avril 1984 fut le Conseil de la Règle, un événement qui fera date dans l'histoire de la communauté. Certains chapitres de la règle figurent intégralement dans ce livre, d'autres sont simplement présentés. On est frappé par le fait que la règle n'est pas une règle dans le sens traditionnel du terme. On n'y trouve pas une multiplicité de prescriptions et d'ordonnances. Elle trace plutôt un chemin spirituel. Elle est un enseignement, une Torah. Elle fait signe au sens fort de l'expression. Nous nous en sommes imprégnés pour notre réflexion dans ce chapitre sur l'obéissance. C'est donc un texte très large. Tout croyant désireux d'épanouir sa vie de foi pourra mettre à profit cet ouvrage, à la fois comme un livre de méditation d'une haute valeur et comme un livre d'exercice pratique. Une traduction intégrale de la règle existe déjà en allemand, en français, en anglais et en norvégien. La langue dans laquelle elle est écrite est pleine de résonance, d'ordre spirituel et monastique et demande un patient apprivoisement des mots. À propos du conseil, la règle dit « Plus la communauté est dispersée, plus est impératif le devoir du rassemblement. Nul ne doit s'y dérober. Dans le cheminement laborieux de tout le corps, dans la prière commune, dans les pensées partagées, les vrais besoins se font jour et les options deviennent possibles. La prieure préside le conseil. Elle fait une large part à la parole des unes et des autres et écoute au plus profond d'elle-même les vérités qui y sont contenues. Toutes les fois où cela s'impose, le conseil se prononce sur les choix à faire. Les pasteurs, attachés à la vie de la communauté, peuvent y être invités ainsi que toute personne dont l'enseignement et le discernement s'avéreraient nécessaires. S'il revient à la prieure de prendre les responsabilités dernières, elle se doit de différer tout ce qui ne maintiendrait pas la paix et l'unité dans la communauté. Évangile. Il nous faut non seulement aimer l'Évangile, contempler l'Évangile, apprendre l'Évangile, vivre l'Évangile, souffrir l'Évangile, mais encore, avec notre chair et notre sang, continuer l'Évangile. Règle de Reuilly.
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, dans l'émission Jolie pour vous, présentée par Hélène Vignon.
Chapitre 6. Pauvreté et célibat. Lorsque le cycle de l'année liturgique nous fait entrer dans les 40 jours qui précèdent Pâques, nous écoutons l'évangile de la tentation de Jésus au désert. Seul pendant 40 jours et 40 nuits, jeûnant et priant dans la chaleur du jour et dans le froid glacial de la nuit, entouré des cris des bêtes sauvages et des esprits démoniaques, il finit par avoir tout simplement faim. La première tentation est d'ordre humain, avoir faim. Le tentateur lui fait une proposition. « Si tu es fils de Dieu !» C'est ce que la voix céleste disait à son baptême dans le Jourdain, n'est-ce pas ?« Ordonne alors que ces pierres se changent en pain !» Jésus repousse la tentation en citant la Torah au livre du Deutéronome. Il est écrit « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu chapitre 4, les versets 1 à 4. Que se serait-il passé si Jésus avait accepté? Les pauvres n'existeraient pas? Les pauvres des bidonvilles et des régions sous-développées de notre terre? Cette misère-là est une honte pour l'humanité et n'a rien à voir avec la pauvreté dont parlent les Écritures. Qu'il n'y ait pas de pauvres dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne en héritage, dit le même livre du Deutéronome. Le pauvre dont Jésus lui-même est l'image en ce monde, c'est l'homme qui n'a rien à offrir, ni richesse, ni carrière, mais qui donne beaucoup plus. Il se donne lui-même. Il donne sa vie. Le pauvre est le véritable riche. Il ne fait pas la charité à son prochain d'un air distrait, mais il offre ce qu'il est. L'Évangile nous appelle à tous, à cette pauvreté-là. Et moines et moniales veulent en être témoins dans l'Église. La règle de Reuilly le dit explicitement, l'esprit de la pauvreté est un esprit de dépendance. Les sœurs se disent pauvres parce qu'elles ont besoin les unes des autres. Pour répondre authentiquement à leur vocation, en un certain sens, cela va tout à fait à l'encontre de notre mode de vie actuel. Il est difficile de vivre une radicale pauvreté dans un monde où la sécurité est imposée de l'extérieur. Mais à chaque temps correspond une ascèse particulière qu'il nous faut sans cesse redécouvrir. Nous ne sommes plus condamnés aujourd'hui à une pauvreté extrême malgré une politique salariale peu gratifiante pour beaucoup ces dernières années. Mais il nous reste un minimum de sécurité, aussi infime soit-il. Comment vivre la pauvreté dans cette société pour qu'elle reste le signe d'une autre réalité? La propriété est ce qui nous appartient en propre. Et c'est justement cela qui crée des divisions entre les hommes. Ce qui m'appartient est à moi. Je peux en disposer, m'en défaire ou le partager. Je peux le garder pour moi. Les autres n'ont pas le droit sur ce qui est à moi. C'est donc la propriété matérielle qui engendre les plus grandes divisions entre les hommes. Ce que je possède, je dois le conserver, le protéger et le défendre. Ainsi, je suis poussé à la méfiance et à la suspicion envers autrui. Les relations se durcissent et se refroidissent. Saint Benoît en était déjà très conscient. Une société où personne ne possède quelque chose en propre est un reflet du royaume qui vient, où personne ne disposera de rien selon sa volonté propre. Chacun reçoit ce dont il a besoin. Celui qui a besoin de moins, qu'il rende grâce à Dieu sans s'en attrister. Celui à qui il faut davantage s'humiliera à cause de sa faiblesse sans se prévaloir de ce qu'il reçoit. De la sorte, tous vivront en paix. Règle de Saint Benoît au chapitre 33 et 34. La règle de Reuilly va dans le même sens avec un réalisme quasi prophétique au regard de notre époque. Cela concerne les sœurs, mais à travers elles, les hommes et les femmes d'aujourd'hui qui connaissent le chômage massif et dont la valeur semble n'être reconnue qu'en proportion de leur salaire. Que ton travail soit ou non rétribué ne change rien à son essence. Tu gagnes ton pain là où tu es et tu participes à la peine des hommes. La nourriture et le vêtement te sont donnés en suffisance. Prends tes repas avec action de grâce. Puis, une phrase finale qui, une fois de plus, nous renvoie au royaume auquel Dieu nous appelle par ses promesses. La table qui nous réunit est plus qu'une nécessité. Elle est le signe d'un autre festin. Les sœurs posent-elles ainsi dans notre temps le signe de ce qui seront les sociétés de demain? Allons-nous vers des temps où seuls une partie de l'humanité sera encore salariée, tandis qu'un plus grand nombre pourra contribuer personnellement au bien-être de l'humanité, et ceci d'une manière bénévole et non productive? Est-ce qu'il ne nous appartiendra pas, non seulement de nous résigner à ces perspectives, mais de les désirer en toute lucidité? Est-ce que nous saurons estimer ceux qui vivent d'une pension suffisante autant sinon peut-être plus que ce qui touche d'un salaire. C'est un rêve qui en fera sourire plusieurs avec un certain cynisme apitoyé, mais c'est un rêve porté par la vision du royaume de Dieu. C'est pourquoi il peut être d'un grand intérêt que certains parmi nous ne se contentent pas d'y réfléchir en parole ou sur le papier, mais l'anticipent par leur vie. Ainsi, moines et moniales sont-ils les vrais pauvres de notre temps? Non, des hommes et des femmes angoissés et inquiets du lendemain, et par surcroît la cible de ceux qui se croient mieux nantis, mais surtout des personnes qui savent ce que signifie la pauvreté spirituelle. Dépendre de Dieu, avoir besoin les uns des autres, être prêt, non à partager ce qu'on possède, mais à donner ce qu'on est. Dans ce contexte, le théologien orthodoxe Paul Evdokimov écrit « L'Évangile demande ce qu'aucune doctrine politique n'exige de ses adeptes, car il s'adresse au don royal d'un esprit libre. À l'échelle mondiale, seule l'économie basée sur le besoin et non le profit a des chances de réussir, mais elle comporte des sacrifices et des renoncements. » Une note, Paul Evdokimov, tirée de la Nouveauté de l'esprit, spiritualité orientale. Alors s'imposera aussi un style de vie autre que celui de gaspillage, du changement incessant et de la provocation à de nouveaux besoins absurdes. La règle de Rui mentionne le soin qu'il faut apporter aux objets et aux matériels communs. Elle fait penser à la règle de Saint Benoît qui charge le célérier de prendre soin de tous les ustensiles et de tous les biens du monastère comme il le ferait des vases sacrés de l'autel, tirés de la règle de Saint Benoît. La vie dans la communauté est tout entière consacrée jusqu'aux objets les plus courants. La règle de Rui ajoute une autre raison à cela, plus directement liée aux situations de pauvreté du monde. Prends grand soin des objets du matériel commun. Le gaspillage est une offense faite à ceux qui n'ont rien. Cherche à te dépouiller du superflu, et n'amasse pas. On ressent le désir d'une solidarité avec les pauvres et le souci d'une gestion qui se limite au nécessaire. C'est là aussi un témoignage pour la société. La communauté elle-même ne doit pas s'enrichir, mais restera généreuse et confiante pour le lendemain. Que les lieux où nous vivons ouvrent à l'homme moderne surchargé des espaces d'ordre et de beauté. La nudité de l'essentiel et du suffisant est une parabole et un appel. Une forme très particulière de la pauvreté, c'est le célibat. On ne renonce pas seulement à un bien propre, mais aussi à ce bien qu'est l'autre comme partenaire de vie. Pour nos contemporains, notamment pour les protestants, cela relève plutôt de l'énigme que du mystère. Qu'est-ce qui pousse un homme, une femme, à renoncer à l'amour charnel, qui pourtant est le couronnement de notre existence humaine? Nous citons intégralement le chapitre de la règle de Rui. Silencieusement, l'appel au célibat ouvre une porte sur le mystère du royaume à venir. Les générations, générations dans son double sens de génération passée et d'engendrement, les générations auront pris fin et tout être vivant aimera Dieu en plénitude. Comme un doigt qui montre une direction, un point précis à l'horizon, le célibat montre une réalité plus vaste, plus belle et plus haute que lui-même. Je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel de chez Dieu. Elle s'était faite belle, comme une épouse parée pour son époux. L'homme, la femme, appelée au célibat, n'ont aucune parole particulière à dire au monde. Ce qui dira quelque chose au monde, c'est l'amour. Entre donc en amitié avec tout ce qui vit sur la terre, les êtres humains, les plantes, les bêtes, les temps et les saisons. Pour former en toi ce cœur chaste en même temps que fraternel, ne suffiront ni l'équilibre humain, ni le service le plus radical. C'est dans la prière et la contemplation que se forge le cœur. La célébration quotidienne de la liturgie anime et éclaire les profondeurs de notre être. Mais un lieu plus pauvre et plus sûr nous est assigné, celui du secret et de la solitude. Toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Prie ton Père qui voit dans le secret, et ton Père qui voit là, dans le secret, te le rendra. Il y a deux mots qui doivent être considérés avec une attention particulière. D'abord, le mot « silencieusement ». La vie dans le célibat ne poursuit ni grand dessein ni action éclatante. Seule une évidence d'intériorité peut être le signe dont parle la règle, comme ce fut le cas pour chacun des moines et des ermites de tous les temps. Dieu seul sait ce qu'il peut en coûter à un homme ou à une femme de renoncer à ce qu'il y a de plus précieux dans cette vie. Les autres n'ont pas besoin de le savoir, ni qu'on le leur explique. Le célibat n'a aucune valeur en soi, et de ce fait ne cherche pas à démontrer quoi que ce soit. Un deuxième mot doit retenir notre attention et va dans le même sens. Une porte ouverte sur le mystère du royaume à venir. Un mystère, voilà ce dont il s'agit. Le royaume à venir de Dieu, c'est le futur. Nous pouvons y croire et y accorder notre vie. Mais le mystère, c'est que ce royaume soit présent ici et maintenant, qu'il veuille prendre forme, s'incarner dans les actes de justice et de paix, dans le souci de la création, dans une espérance qui défie toute désespérance. Ce mystère prend littéralement chair en celui ou celle qui choisit de le vivre aujourd'hui, non pas dans une absence d'amour, refus d'amour ou amoindri, mais dans une surabondance d'amour. La règle ne présente pas le célibat comme un état de vie désincarné. Elle le compare à l'image biblique concrète de la nouvelle Jérusalem, semblable à une épouse parée pour son époux. L'amour est, au plus profond de lui-même, un don du Saint-Esprit aux hommes. Là où les hommes se laissent pénétrer par l'Esprit, la vie se fait signe de l'amour qui vient et qui n'aura pas de fin. Le célibat pour le royaume en est la fine pointe. La prieure de Reuilly en parle en ces termes. La chasteté est la sentinelle du cœur. Mais elle dit aussi, les sœurs ne seront le partenaire exclusif de personne afin d'être disponibles pour chacun. C'est ainsi qu'elles ne se tiendront au cœur de la souffrance des hommes de notre temps, à la fois ensemble et seul devant Dieu. Dans le siècle où nous vivons, environnés d'un érotisme outrancier, d'une société qui fait de la sexualité un but et de l'amour un objet, le célibat témoigne d'une autre existence possible, comme le fait la pauvreté par rapport à une société de consommation et de sécurité. Paul Evdokimov écrit « Le péché de la chair, c'est le péché de l'esprit contre la chair. Car c'est bien l'homme qui, avec ses pensées et ses sentiments, sa volonté et son désir, fait un mauvais usage du si beau don de la chair. Il est frappant de constater que, malgré la méfiance et la suspicion dont les cœurs ont été entourés au siècle dernier par leurs coreligionnaires, elles ont certes accepté des compromissions nécessaires pour éviter une rupture avec leur Église. Mais elles ont maintenu le célibat. Il n'était pas question de le remettre en cause. Ces réflexions ne concernent pas uniquement les diaconesses de Reuilly. Elles ne concernent pas uniquement non plus les moines, les moniales, les ermites ou ceux qui réalisent leur vocation en choisissant librement de vivre seuls. Elles peuvent également inspirer et orienter la vie de ceux et de celles qui sont restés seuls malgré eux ou qui ont perdu leur compagnon de vie par la mort ou l'échec conjugal. mais ces réflexions ont aussi quelque chose à dire à ceux qui sont mariés. Saint Augustin écrit « La chasteté du corps ne concerne qu'un petit nombre. La chasteté du cœur concerne tout le monde. » La règle de Reuilly dit encore ceci « Lorsque tu verras les péchés en fleurs crier de joie sous le ciel et les jeunes bêtes gambader dans le matin, lorsque tu verras l'enfant s'enfuir au cœur de sa mère et que tu seras là, toi, seul, reçois cette puissance de vie et sois sans crainte. Tu es le grain semé en terre. Débordant de promesses, il portera fruit, 50, 100, davantage. Enfonce-toi au sol de Dieu et lui te subviendra. »
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, dans l'émission « Jolie pour vous », présentée par Hélène Vignon.
Chapitre 7. Une spiritualité liturgique. Les mots, les silences, les lieux, les temps de la prière et jusqu'aux gestes de notre corps nous sont enseignés par la parole de Dieu et redits par l'Église. À nous, il suffit d'aimer, car le puits est profond où nous pouvons puiser. Dans ces 50 dernières années, la liturgie a été de plus en plus largement appréciée dans les églises de la Réforme. Mais combien de prédicateurs et de paroissiens, de choristes et d'organistes se retrouveraient dans ces lignes de la règle de Reuilly ? Cet intérêt plus répandu pour la liturgie se manifeste par la production d'un ensemble de textes et de chants servant avant tout de cadre à la parole et au sacrement. Grâce à eux, la signification de la parole et du sacrement est rendue plus claire, plus évocatrice, plus parlante. L'attention est attirée sur le sens, mais cela a surtout un but pédagogique et catéchétique. Dans les églises de la Réforme, comme dans la plupart des milieux catholiques, nous avons généralement tendance à caractériser la liturgie comme une chose bien ordonnée. Les liturgies occidentales donnent l'impression d'avoir, comme mot d'ordre, l'exhortation de saint Paul « Que tout se fasse convenablement et avec ordre » 1 Corinthiens 14, verset 40. La vision première de la liturgie, telle que nous la trouvons en réalité dans les Écritures et particulièrement dans l'Ancien Testament, est assez différente de cette conception. Il s'agit d'une liturgie de source. Cela signifie que nos actes liturgiques nous font puiser à la source de Dieu lui-même, à ce lieu où non seulement il se fait connaître à nous, mais surtout où il désire se donner à nous. La liturgie n'est pas le lieu où l'on parle du salut, c'est le lieu où l'on reçoit et où l'on vit le salut, où l'on renaît de la source que Dieu décèle entre nous. Bien des chants, des psaumes, des prières nous parlent de cette source, mais nous les chantons et récitons encore d'une manière beaucoup trop distraite, comme si ces paroles se référaient à une autre réalité, plus spirituelle et bien moins structurée qu'elle ne l'est en réalité. Une note. Nous chantons bien souvent nos cantiques sans avoir conscience du réalisme liturgique des mots que nous employons. Les images qu'ils utilisent ne sont plus pour nous que pure rhétorique. Si nous pensons au Te Deum du Louange et Prière 69, quand nous chantons « Et prosternés devant toi, nous t'adorons au grand roi » ou encore « Tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus », nous nous disons certainement que c'est intérieurement que nous nous prosternons ou que nous nous agenouillons. Le mot liturgie signifie littéralement « travail des laïcs ». Être un laïc ne veut pas dire être un incapable, mais un laïcos, c'est-à-dire un homme du peuple. Or, Ce peuple n'est pas une tribu quelconque, mais la famille de Dieu. Laos, contrairement à l'autre mot grec « ethnos », c'est l'appellation choisie pour Israël, ou encore pour le peuple nouveau de Dieu, issu des Juifs et des païens. La liturgie est le vrai travail des laïcs, c'est-à-dire du peuple, ou encore, comme le dit saint Benoît, c'est l'opus Dei par excellence, l'œuvre des œuvres, le travail de Dieu et pour Dieu. C'est pourquoi la liturgie n'est pas un cadre autour de quelque chose, d'une réalité hypothétique, mais la sanctification de la vie elle-même dans sa totalité. Comment comprendre que ce soit justement le calvinisme qui ait rendu le culte si sec? La réforme de Calvin, portée pour une large part sur l'adoration de Dieu et la sanctification de la vie des hommes, et la liturgie est le lieu où toute cette vie se trouve sanctifiée, imprégnée par ce qui a été puisé aux sources de Dieu. Nos temps et nos lieux, notre naissance et notre mort, nos joies et nos peines prennent toutes leurs dimensions si nous les laissons être irriguées par l'Esprit qui nous est donné. Sanctification, oui, mais une sanctification qui vient de notre réceptivité et non d'un moralisme ou d'un dogmatisme étroit. La liturgie naît là où il y a réellement fête et espérance, là où l'on regarde plus loin que les frontières de la vie. Une note. G.J. Wenderdahl, Riskonselp, la liturgie dans un monde sécularisé. Le professeur Wenderdahl appartient au courant remontrant de l'Église protestante de Hollande qui, à la fin du XVIe siècle et à l'instigation d'Arminius, avait fait des remontrances contre le synode de Dordrecht sur sa doctrine de la prédestination. Il se situe ainsi dans le droit fil du catéchisme de Heidelberg, qui interprète le commandement du sabbat comme du jour où l'on s'arrête, où l'on fait relâche, où on double, au double sens du terme, à la fois on entre dans la célébration et on est libéré pour repartir à neuf. Mais arrêtons là les explications sur le sens inépuisable de la liturgie. Les mots seront toujours des mots. Comment vivons-nous la liturgie? Comment trouver une véritable spiritualité liturgique? Jean Corbon pose le problème avec netteté. L'unité de la liturgie et de la vie nous est offerte si nous savions le don de Dieu, mais elle est à découvrir et à vivre. Si elle est ignorée ou désavouée, c'est qu'elle n'a pas été atteinte à sa source, et ce pour de multiples causes qui ne révèlent pas toutes de la qualité de la célébration. Justement, l'une de ces causes pourrait bien être la confusion peu discernée entre la liturgie et la célébration liturgique. Cette confusion est commune à ceux qui restent pratiquants et à ceux qui ont cessé de l'être. Elle est même partagée par des fervents animateurs du renouveau liturgique. Ils font porter tous leurs efforts sur la célébration, ses formes, ses expressions, la vie de l'assemblée, les textes et les gestes, le chant et la participation vivante de tous, et il le faut. Mais ils oublient parfois ce qui est célébré, comme si cela allait de soi. Comment s'étonner ensuite qu'après tant d'efforts, la liturgie semble n'avoir pas de prise sur la vie? On a restauré les canalisations, oui, mais la source. Cela pose la question de la source. Ce que nous appelons dans ce chapitre « spiritualité liturgique », c'est ce qui émane d'une réceptivité, et plus précisément, comme l'exprime la règle de Reuilly, d'un amour. Le rapport entre l'un et l'autre, entre la source que Dieu nous ouvre et l'amour avec lequel nous y puisons, et la liturgie échappera totalement à beaucoup. La liturgie, au meilleur sens du terme, a de la grandeur et de la tenue. Pourtant, elle nous donne l'impression d'être formelle et rigide. Une prière spontanée, pleine de ferveur, nous semble se rapprocher davantage de la source qu'une préface chantée ou un psaume cantilé. Mais ce n'est qu'une apparence. Romano Guardini écrit que « si la liturgie paraît étrangère au sentiment, c'est à première vue seulement. Son cœur est incandescent, mais plutôt à la manière d'un volcan dont la cime s'élève avec netteté dans la fraîcheur du ciel. » Le miracle de la communauté des diaconesses est précisément d'avoir trouvé, sans prétention, la jonction avec la source. Nous en avons suivi le processus dans notre survol historique. Avec les novices, sœur Viviane a commencé tout simplement à écouter, à suivre les indications des Écritures et ce que l'Église de tous les temps a répété et appliqué. Les sœurs plus anciennes l'ont vu et accepté. La plupart d'entre elles se sont trouvées heureuses et enrichies par cette forme liturgique de prière qui, et ceci doit être souligné, qui ne remplace pas la prière personnelle. Il y a du temps, beaucoup de temps pour la prière personnelle dans sa propre cellule ou dans la chapelle en dehors des offices. En revanche, la prière liturgique apporte mesure et rythme, nous élève au-dessus de nos préoccupations individuelles. Elle demande renoncement et réceptivité. Voilà l'origine d'une vraie spiritualité liturgique. Dans un certain sens, elle s'inscrit dans la foulée de la pratique et de la pauvreté et de la chasteté. Au fil de notre lecture aujourd'hui, nous avons parcouru deux chapitres qui caractérisent ce qui interpelle particulièrement une personne qui ne connaît pas le monde monastique, la pauvreté, le célibat et la spiritualité liturgique. Nous aurons encore quelques informations à propos de cela dans le début de notre prochaine lecture. Puis le chapitre 8 et la suite nous éclaireront sur la communauté et les églises, avant d'entrer plus avant dans la communauté et l'association avec ses actions en France et à l'étranger. N'oubliez pas d'écouter la prochaine émission. Ensemble, il nous reste à faire de nombreuses découvertes que je me réjouis de partager avec vous. Pour l'écoute, c'est le direct à la radio. Radio Alliance Plus, 103.2 FM et DAB+, les mardis et mercredis à 21h, avec rediffusion les lundis et mardis à 6h. N'oubliez pas aussi, toutes nos émissions sont disponibles dans les podcasts de la radio www.radioallianceplus.fr. À très bientôt, chers auditeurs.